بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le dimanche, le 24 du mois Shawwal de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 12 avril 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette rencontre hebdomadaire dans laquelle nous lisons ensemble ces six passages, ces six événements de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam qui ont été choisis par l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, décédé en l'an 1206 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les savants de la Ummah. Et on s'est rendu au cinquième passage, le cinquième événement qui a été choisi par l'auteur de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, qui aborde un sujet capital dans la vie de notre prophète alayhi salatu wassalam, qui est al-hijra, l'émigration. Quand le prophète alayhi salam a émigré et il a quitté Mecca, terre de Kufr à l'époque, pour se rendre à Médine, une terre d'islam. Et c'est ça l'émigration qui est obligatoire dans l'islam. Et l'auteur a relaté cet événement pour attirer l'attention, comme il l'a précisé. Il a dit que beaucoup de ceux qui lisent le récit de l'émigration du prophète alayhi salam, ils ne font pas attention à certains détails très très importants. C'est pour ça qu'il les a mentionnés ici, afin qu'on leur accorde le plus grand intérêt et qu'on tire les leçons les concernant et les enseignements bénéfiques de cet événement qui est l'émigration du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc on a déjà parlé de quelques points concernant l'hijra, et nous avons vu que le Nabi alayhi salam, quand il a émigré avec ses compagnons vers Médine, certains compagnons muslimines, des vrais croyants, des croyants sincères, n'ont pas émigré. Et ils n'ont pas délaissé l'émigration par amour de la mécréance ou à cause de certains doutes qu'ils avaient dans la foi. Non, c'était des vrais croyants, des croyants sincères qui avaient une foi ferme et qui n'avaient point de doute au sujet de la foi. Mais la cause de leur retardement de l'émigration, c'était leur amour et leur attachement à leurs biens, leur famille et leur patrie. Ils ont eu du mal à quitter Mecca. Et même le Nabi alayhi salam lui-même, si vous vous rappelez, quand il a quitté Mecca, malgré lui, quand il est sorti, arrivé à un endroit, il s'est tourné vers la Mecque, il a dit par Allah, c'est la cité d'Allah la plus aimée par Allah. Et si on m'avait pas fait sortir de force, je ne t'aurais jamais quitté. Donc le Nabi alayhi salam également avait l'amour de sa ville natale. Et ça, c'est un sentiment naturel chez tout individu, toute personne, quel que soit ce lieu de naissance, l'homme a un amour pour son lieu de naissance. Et ça, c'est un amour naturel. Comprenez ce que ça veut dire, un amour naturel. C'est pas quelque chose de religieux. Ça fait partie de la nature humaine saine. C'est pour ça, si on trouve quelqu'un qui dénigre son pays d'origine ou là son pays de... Il y a un problème quelque part. Lakin, c'est pas un acte d'adoration. C'est pas quelque chose qui rapproche d'Allah. Le fait d'aimer son lieu de naissance. Ça, c'est un amour naturel qui n'est pas sujet de blâme ni d'éloge. La personne n'est pas blâmée pour cet amour, comme elle n'est pas louée pour cet amour. Également comme l'amour du père ou d'un des parents, l'un des parents mécréants. Ça, c'est un amour naturel que la personne ne choisit pas et qui n'est pas non plus sujet de blâme ni d'éloge. Comme l'amour que puisse avoir un époux pour son épouse chrétienne ou juive. Si Allah a autorisé ce mariage avec les conditions, si Allah l'a autorisé, c'est qu'il a autorisé que l'homme aime son épouse. Et donc, il ne va pas l'aimer pour sa religion. Ça, c'est un acte de mécréance. Lakin, il l'aime comme épouse. Ça fait partie des catégories de l'amour naturel que la personne ne choisit pas et qui ne sont pas sujets de blâme ni d'éloge. Par contre, aimer son pays pour le bien qu'il y a dedans, ça, c'est quelque chose qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma, l'aimer juste parce que c'est son pays natal ou là c'est son lieu de naissance, ça, notez bien que c'est un amour naturel. Donc ces compagnons qui n'ont pas émigré, c'est pas des croyants qui doutaient de la foi. C'est pas des croyants qui aimaient les mécréants. Absolument pas. C'est uniquement des croyants qui avaient cette faiblesse au niveau de l'attachement à leur bien et leur patrie et leur famille. Donc ils ont eu du mal à quitter tout ça et partir s'installer à Médine. Et vous savez que c'est difficile de quitter l'endroit dans lequel la personne a grandi pour aller dans un autre endroit. Et donc, quand les musulmans sont sortis avec le prophète A.S. pour la bataille de Badr, la grande bataille de l'islam, la bataille dans laquelle Allah a permis la distinction entre le vrai et le faux, entre la foi et la mécréance, Yawm al-Furqan, la grande bataille de Badr. Quand le prophète est sorti avec ses compagnons, Kuffar Quraysh se sont préparés. Et les musulmans ne sont pas sortis préparés pour une bataille. Ils sont sortis juste pour intercepter une caravane commerciale pour récupérer un peu de ce que le Kuffar leur ont pris à Mecca. Une caravane commerciale qui appartenait à Abu Sufyan, qui était encore mécréant ce jour-là. Ils sont sortis uniquement pour cela. Ils n'avaient pas du tout l'intention de mener une bataille contre Quraysh. Mais Allah a voulu autrement. Et donc, du coup, ils ne sont pas sortis préparés, ni armés. Certains sont sortis à pied. Et la majorité d'entre eux, c'était comme ça. Et d'autres n'avaient même pas d'armes avec eux. Et quand Quraysh ont entendu la sortie des musulmans pour intercepter la caravane commerciale, ils ont saisi directement l'occasion afin d'exterminer ces croyants. Et ils sont sortis avec une grande armée. Les musulmans étaient, leur nombre était de 300 et quelques, 313, 314. Quraysh sont sortis avec 1000 guerriers, tous extrêmement bien armés et avec des montures. Et ils se sont rencontrés dans cet endroit qui s'appelle Badr. Aujourd'hui, c'est une ville en Arabie Saoudite. Ils se sont rencontrés dans cet endroit de Badr. Et c'est là où le Nabi A.S. a imploré Allah subhanahu wa ta'ala et l'a invoqué d'une manière extrêmement forte au point où Abu Bakr Siddiq a eu pitié du prophète A.S. Il lui a dit, rassure-toi au messager d'Allah, Allah va accomplir pour toi sa promesse. Ne t'inquiète pas. Mais le Nabi A.S. il disait, si jamais ces hommes sont tués aujourd'hui, jamais Allah ne sera adoré sur terre. Effectivement, la bataille s'est déroulée. Et les croyants l'ont emporté. Allah leur a envoyé des renforts, des anges, qui ont combattu aux côtés des croyants. Et de la même manière que les croyants qui ont participé dans cette bataille sont les meilleurs de cette communauté, jusqu'à la fin des temps. Ces 300 et quelques hommes sont les meilleurs de cette communauté. De la même manière, les anges qui ont combattu dans cette bataille, c'est les meilleurs des anges, l'élite des anges. Il y avait Jibril, alayhi salam, il y avait Israfil, il y avait Mikaïl, il y avait des anges qui ont participé aux côtés des musulmans. Et les musulmans ont emporté leur première bataille. Et ça a été un tournant dans l'histoire de l'islam et des musulmans. Et les musulmans enfin sont devenus une force, une puissance, crainte par ses ennemis. Là, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas le récit de la bataille de Badr. C'est de savoir que dans les rangs des koufars, il y avait certains croyants qui ont été forcés par le koufar de sortir avec eux. Parmi ceux qui sont restés à Mecca. Parmi les croyants qui sont restés à Mecca, qui n'ont pas émigré vers la terre de l'islam, il y avait qui étaient forcés de sortir avec le koufar. Donc ils sont sortis sous la contrainte, malgré eux. Et c'est des gens qui ne doutent absolument pas de la foi. C'est des vrais croyants. Juste, ils ont eu cette faiblesse de rester à Mecca et de ne pas émigrer avec les croyants. Notez bien tous ces éléments car ils sont très importants dans la compréhension. Mais malgré cela, et quand certains compagnons du côté de l'armée du prophète sallam ont tué, sans faire attention, des croyants qui étaient dans l'armée des koufars, sans savoir que c'était eux. Quand ils les ont tués, ça a été tellement pénible pour eux. Ils étaient peinés par cela. Ils ont dit, nous avons tué nos frères. Regardez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, nous avons tué nos frères. Et les croyants à cette époque-là, ils avaient reçu tellement de science, plus de 10 ans de science avec le Nabi alayhi salam et de la révélation. Et bien évidemment, le Nabi alayhi salam, il a passé les 10 premières années à leur enseigner Tawhid et la foi. Et la plupart des législations de l'islam sont venues beaucoup plus tard. La plupart de l'ahkam sont venues à Médine. À Mecca, il y avait Tawhid, et vers la fin de la période mécoise, il y a eu la Salat. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Avec toute la compréhension qu'ils avaient de Tawhid, ils ont dit, nous avons tué nos frères. Ça veut dire, ce sont leurs frères dans la foi. Si c'était des gens qui doutaient de la foi, ils n'auraient pas dit nos frères. Ils auraient dit, des koufars. Pas nos frères. Et à ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset. Il a dit, « Inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim » Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en 10 ans. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de ces croyants qui sont restés à Mecca et qui n'ont pas émigré. Il a dit à leur sujet, Inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes. En disant, Qalu fima kuntum. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Ils leur disent, Où étiez-vous à propos de votre religion? Où étiez-vous à propos de votre religion? Qu'est-ce qu'ils diront aux anges quand ils viendront prendre leurs âmes? Ils leur diront, nous étions impuissants sur terre. Est-ce que les anges leur ont dit, comme on dit à d'autres koufars, vous avez menti? Non, ils ont dit la vérité. Ils étaient démunis et impuissants sur terre. Alors à ce moment-là, les anges leur diront Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mais ceci n'est pas une excuse valable d'être impuissant, d'être démuni. Ils leur diront La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour émigrer? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. C'est-à-dire, ils sont menacés par le châtiment de l'enfer, étant donné qu'ils ont délaissé une grande obligation de l'islam qui permet la mise en pratique de l'anse la plus solide de la foi, qui est l'amour en Allah et la détestation en Allah. Al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu. Ça, c'est l'anse la plus solide de la foi. Le lien le plus fort qui te lie à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle mauvaise destination. Et regardez comment Allah n'a fait exception de ce jugement que d'une seule catégorie. Il a dit « Illa al-mustad'afina min al-rijali wal-nisa'i wal-wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila fa'ulaika asallahu an ya'fou anhum wa kana allahu afouan ghafoura » Dans le sens approximatif, Allah a fait exception de ce jugement et de cette menace par le châtiment dans le feu de l'enfer, pour ceux qui ont délaissé cette grande obligation de l'islam, il a fait exception d'une seule catégorie, qui sont les impuissants. Hommes, femmes et enfants. Et c'est quoi l'impuissance ici? C'est d'être incapable de se débrouiller et qui ne trouve aucune voie. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas les moyens d'accomplir cet acte d'adoration qui est l'émigration. Qui n'ont pas les moyens de l'accomplir. Et les moyens à leur époque, c'était les provisions et la monture. Et connaître le chemin. Connaître le chemin également. Donc à cela, Allah dit, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est clément et pardonneur. Cheikh, il dit, فَتَأَمَّلْ قِصَّتَهُمْ وَتَأَمَّلْ قَوْلَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَتَلْنَا إِخْوَانَنَا. Donc, médite au sujet de leur histoire et médite également au sujet de la parole des compagnons quand ils ont dit « Nous avons tué nos frères ». Et si c'était des gens qui aimaient la mécréance ou qui embellissaient la religion des idolâtres, jamais ils auraient dit « Nous avons tué nos frères ». Car ces enseignements leur ont été donnés pendant la période mécoise, c'est-à-dire les enseignements de ce que c'est Tawhid, de ce que c'est le Mouahid. Le Mouahid, ya ikhwa, comme vous savez, c'est celui qui a la parole « La ilaha illallah » dans le cœur, et sur la langue, et également dans la pratique et dans l'apparence sur les membres. C'est ça le Mouahid. Le Mouahid, c'est celui qui a la parole « La ilaha illallah » qui signifie nulle divinité ne mérite l'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Toute adoration vouée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'acte le plus grave et le crime le plus dangereux qui s'appelle shirk. Comme bien même, celui à qui cette adoration est faite est appelé Sheikh al-Tariqa ou Sidi Intel. L'adoration, c'est le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le sens même de la parole La ilaha illallah. C'est pour ça qu'il ne convient pas aux croyants de dire cette parole et de ne pas comprendre son sens. C'est pour ça qu'un parmi les savants des pieux prédécesseurs a dit « Malheur à celui dont Abu Jahl » Abu Jahl, comme vous savez, c'est le pharaon de cette communauté. C'est un des plus grands ennemis du prophète A.S. « Malheur à celui dont Abu Jahl comprend mieux la parole « La ilaha illallah » que lui. » Car Abu Jahl, il savait que si jamais il disait « La ilaha illallah » il doit délaisser tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Il doit vouer l'adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est un pur arabe. Il comprend ce que ça veut dire, la ilaha illallah. Contrairement à aujourd'hui, on peut voir des gens qui se disent musulmans et qui disent la ilaha illallah et qui sacrifient pour un tel et un tel. Le sacrifice et l'égorgement est une adoration. C'est le droit d'Allah seul. Tu dois dire bismillah seulement. Et pas bismillah et ensuite bismi un tel. Cheikh Antel. Al-Zabhu Ibada. Tous on connaît le hadith authentique dans lequel le Nabi Asasalam dit La'an Allahu man zabaha li ghayrillah. Et ainsi de suite, parmi les adorations, toutes les adorations qui doivent être vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'est excusé au sujet de la mécréance que celui qui est sous la contrainte et la menace. Comme Allah a dit من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. Vous savez que ce verset a été révélé au sujet de Ammar ibn Yasir radiallahu anhu, qui était contraint d'insulter le Nabi alayhi salam. Et une contrainte qui allait être exécutée. Il était menacé de mort. S'il n'insultait pas le Nabi alayhi salam, ils allaient le tuer comme ils ont tué sa mère. Radiallahu anha. La première martyre en islam. Allah a révélé ce verset pour donner son excuse et que celui qui commet un acte de mécréance ou qui prononce une parole de mécréance sous la contrainte est excusé. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, tout en ayant le cœur serein sur la foi. Et ensuite il a dit wa ablagh min hadha ma taqaddama min kalam Allah ta'ala fihim fa inna al mala'ikata taqulu lahum fima kuntum, donc les anges leur diront où étiez-vous par rapport à votre religion. Ils leur ont pas dit est-ce que vous étiez sincères dans votre foi, car ils savent qu'ils l'étaient. Lakin ils leur ont dit où étiez-vous par rapport à votre religion. Ils ont dit nous étions démunis, et les anges ne les ont pas démentis, car ils ont dit la vérité. Lakin ils avaient la possibilité d'aller ailleurs sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala où ils pouvaient mieux pratiquer leur religion. Où ils pouvaient mieux pratiquer leur religion. Et parmi... On va terminer avec ce point, parmi les enseignements qu'on puisse tirer de cette histoire de l'immigration, c'est qu'en islam, mes frères, il n'y a pas de place pour le désespoir. La fin, c'est pour cette religion, la religion de l'islam. Lakin, le souci qu'on doit avoir, est-ce que nous, on sera parmi les soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ceux qui vont faire triompher la religion de l'islam. Mais le triomphe, wallahi, il est pour cette religion de l'islam. Il ne restera pas un foyer sur terre dans lequel ne rentrera pas la religion de l'islam. Comme ceci a été rapporté dans le hadith authentique. Et regardez comment l'issue était proche pour les compagnons. Après toutes les difficultés, après toutes les épreuves qu'ils ont vécues à Mecca, regardez le bon aboutissement et l'issue qu'Allah leur a donnée avec l'émigration vers Médine, où il y a eu la fondation du premier État islamique et la construction de la première mosquée en islam et tous les liens de fraternité que le Nabi a mis entre les émigrés et les Médinois, et également tous les pactes que le Nabi a conclus avec les autres tribus. Et c'était le début de la propagation de l'islam à grande échelle, après toutes ces difficultés et toutes ces épreuves où les compagnons étaient torturés, pas parce qu'ils ont fait du mal, mais seulement parce qu'ils ont dit « La ilaha illallah » et qu'ils ont délaissé l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi dans cette histoire de l'hijra, nous voyons l'importance de prendre en considération les causes en islam. En islam, le croyant est invité à prendre en compte les causes légiférées afin d'arriver aux bonnes fins. Regardez comment le Nabi alayhi salam s'est préparé pour cette immigration. Il ne s'est pas dit « je suis le messager d'Allah, Allah m'assiste et me soutient, donc il est parti n'importe comment ». Non, alayhi salam s'est préparé pour cette immigration. Et aussi, il s'est caché. Il s'est caché à un moment. Il a changé de chemin. Il a chargé une personne de cacher les pas de ses pieds, ainsi que les pas de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, parmi les autres causes qu'il a fait afin de parvenir à faire cette hijra dans les meilleures conditions. Et ça nous donne un principe important dans l'islam, c'est que tawakkul est une adoration. Tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration du cœur. Lakin, le vrai tawakkul est accompagné de causes légiférées. Il n'est pas autorisé pour le croyant de délaisser les causes sous prétexte qu'il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu prends en compte les causes légiférées afin d'arriver à ce que tu souhaites. Donc nous allons nous arrêter ici. Barakallahu fikum. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.